Tu aimes le milieu artistique québécois et tu as envie d'encourager la relève? Diversitor, c'est pour toi. Jeudi le 16 août au Belmont à partir de 19h, viens profiter de prestations live de DJ, d'humoristes, de peintres et bien d'autres. Achète ton billet et contribue à cet événement bénéfice pour la Fondation UQAM et l'accès aux études universitaires. Info au www.lebelmont.com et sur l'événement Facebook Diversitor. C'est un rendez-vous.
Hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
Cet été, découvrez les talents de Montréal sur les berges du canal de la Chine à la station FMA. Jusqu'au 15 août, le Wagon Galerie accueille Seft Art. Made in Montreal et sa sélection de créateurs occupent le Wagon Boutique et vous pouvez déguster des breuvages locaux au Wagon Café. Le Wagon Stanley Studio accueillera artistes de la scène montréalaise et programmation spéciale de Choc.ca. Profitez des activités pour tous et toutes, de concerts, de spectacles et des initiatives locales. La station éphémère, c'est à Griffintown, du lundi au dimanche, de 11h à 23h. Plus d'infos sur stationéphémère.ca et sur notre page Facebook.
T'as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Pool Hip-Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, bonjour, mon nom est Mégane Bédard et cette semaine, bienvenue à un nouvel épisode de Pop en Stock, l'épisode numéro 178. Et l'émission d'aujourd'hui n'aurait pas pu être possible sans un collaborateur de Pop en Stock et ça fait très très longtemps qu'il est venu avec nous, donc Christopher Chancy, je suis vraiment très contente que tu sois là aujourd'hui.
Ah, oh, t'es fine!
C'est un peu grâce à toi, ben c'est un peu, c'est exclusivement grâce à toi qu'on fait cette émission-là aujourd'hui parce que c'est toi qui m'as écrit par comme « Hey, je m'ennuie, j'aimerais revenir à Pop en Stock ».
Mais oui, j'enseignais les mercredis soirs, fait que c'était très difficile pour moi de me libérer pour les Pop en Stock, puis ben avec la compagnie et tout, je suis assez occupé ces temps-ci, mais j'avais un soir de libre cette semaine, puis ça faisait un bout qu'on n'avait pas parlé de jeux indie, je pensais qu'il était temps.
Yes, parce qu'on a déjà fait un épisode jeu indie, donc c'était en avril 2016, si je me trompe.
Le marché a complètement changé de
vie. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, c'était au lendemain, parce que j'ai réécouté l'épisode, c'était au lendemain de la... En fait, il venait de... Merde, j'ai oublié un mot. Mais c'est la guilde, donc il venait d'être formé officiellement, donc la guilde des développeurs indépendants de jeux vidéo
du Québec. Yes, que je suis maintenant sur le CA, en fait, de la guilde. Fait que oui, un organisme, en fait, qui était parti pour donner une voix pour les studios indépendants québécois, particulièrement québécois, parce que, évidemment, on a un écosystème politique puis financier assez intéressant pour développer les jeux vidéo au Québec. Les crédits d'impôt, on a les subventions du CMF qui sont toujours possibles. Puis on a des grosses corporations comme Ubisoft, et Eidos, etc., Warner, qui ont aidé énormément à faire grandir cet écosystème-là, puis qui ont énormément d'employés, fait que c'est super bénéfique pour eux d'avoir ce crédit d'impôt-là. Sauf que nous, les indépendants, on s'est rendu compte qu'on se connaissait pas trop. On s'est rendu compte aussi qu'on était beaucoup. Mm-hmm. Fait qu'en ce moment, on a une 150 membres à peu près. Puis honnêtement, on a des milliers d'employés qui travaillent dans ces 150 studios-là. Fait qu'on s'est donné une voix, puis on commence essentiellement à faire valoir de manière culturelle, politique, économique, toutes les sphères possibles, que ben les entreprises québécoises en développement de jeux vidéo, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bonnes choses.
Mais c'est ça, ça fait un petit peu plus que 2 ans que la Guilde est officiellement lancée, formée et active. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis sa création?
Hein? Ben j'ai pas le droit de dire tout, mais ce que je veux dire, c'est on est beaucoup plus en santé, on est beaucoup plus organisé qu'on l'était. L'année passée, on a fait 2 événements. On a fait l'Odyssée musicale du jeu vidéo, où on faisait valoir la musique dans les jeux vidéo québécois. Fait que là, à ce moment-là, honnêtement, il y a tellement de bonne musique qui se fait dans les jeux vidéo que c'était cool de le souligner pour nos artistes d'ici. Puis ça, c'est la Guilde qui a chapeauté cet événement-là. Puis on a aussi fait un événement qui s'appelle Mega l'année passée, le Montreal Expo Gaming Arcade, qui était un événement un peu... en tant que développeur, c'est un peu bizarre parce qu'il faut tout le temps qu'on se déplace à Boston quand on veut faire montrer notre jeu vidéo à PAX East. Je veux dire, c'est comme absurde, mais il faut que tous les studios montréalais se déplacent aux États-Unis, alors qu'à Boston, il n'y a pas tant de studios que ça. que on s'est dit, ça serait brillant de faire l'inverse, puis que le monde vienne nous voir ici à Montréal. Fait que la Guilde a parti ça l'année passée. On s'attendait pas à autant de gens. On a eu comme 5000 personnes qui sont venues. Il y avait un moment dans la journée où est-ce qu'on pouvait plus accepter les gens parce que c'était comme un fire hazard d'accepter des nouvelles personnes.
J'étais bénévole à la sécurité, puis j'étais dans les gens qui devaient dire non, vous pouvez pas rentrer, en fait, parce qu'il faut que quelqu'un sorte pour que vous puissiez rentrer.
On entend la voix ici de Margot Blanchard, salut.
Hey, désolée.
Merci d'être là avec nous.
Fait que ouais, c'est ça. Puis là, cette année, ça va être bigger and better than ever. On va faire l'annonce très bientôt de l'événement. Puis on a des partenaires super intéressants cette année. Fait que on espère que grandir ça à chaque année. Puis c'est ça, on a des services qu'on offre à nos membres avec la Guilde, que ce soit des assurances, de l'aide avec des subventions, des choses comme ça, du mentorat, juste avoir un espace où échanger avec d'autres développeurs aussi. Il y a beaucoup de bien qui sort de ça, des coproductions qui sont en train de se monter. C'est incroyable.
Donc, le jeu vidéo indépendant est en santé au Québec et c'est grâce à la Guilde, en très grande partie, en tout cas depuis les dernières années.
Yes.
Donc, j'ai aussi en studio, donc on a entendu Margot.
Désolée.
Allô? Non, mais non.
Tu m'en empêchais, là. J'ai vécu cet événement, là.
Il fallait que tu mettes ton grain de sel aussi, là. Mais aussi, on a en studio André-Philippe.
Bonjour.
Salut. Et Juliane.
Allô.
Pour parler de jeux indépendants. Donc, j'ai réécouté un peu le dernier épisode qu'on avait fait la dernière fois. Puis, c'est ça, on parlait beaucoup de la Guilde. On parlait vraiment du phénomène du jeu indie en général, mais aussi de comme plus du marché. Donc, on a parlé beaucoup de Steam et toutes les arcades aussi donc le phénomène qui entoure beaucoup les jeux. Puis aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, donc faire plus des études de cas. Puis donc, comme tu l'avais suggéré, Christopher, on va parler des jeux qui sont sortis dans la dernière année ou peut-être dans les 2 dernières années, là, pour rester de plus récent, puis pour voir aussi comment ça a changé depuis le dernier épisode qu'on a fait et depuis la création des jeux indie. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais oublié un peu toute la filiation entre les jeux indépendants et les jeux AAA. C'est comme ça dure depuis toujours, là. Donc on disait que Doom, c'était à l'origine un jeu indépendant.
Ben oui. Ben ça l'était à l'époque, tu sais. Uh-huh. En fait, la définition est encore floue d'un jeu indépendant, tu sais. Même si on pourrait passer le podcast en entier de parler de ça.
Non, c'est clair. En plus, j'ai réécouté moi aussi le podcast pour me préparer. C'était vraiment très intéressant, cette tension-là. Mais t'as même des personnes comme les concepteurs de ceux qui ont fait Hellblade, Senua's Sacrifice. Eux vont même dire qu'ils sont un indépendant de AAA game directement. Donc, ils ont les deux avantages d'une certaine manière. On a cette idée-là d'un AAA qui a plus de qualité, plus potentiellement de beaux visuels, mm-hmm. d'élaboration, de contenu également, et le jeu indépendant qui, lui, est plus libre, a plus une direction artistique intéressante, a plus d'innovation. Donc, c'est intéressant que même les développeurs eux-mêmes s'amusent à dire « Oui, on peut jouer des deux côtés et faire quelque chose d'indépendant, mais de très complet.
Absolument. Puis la notion de triple I, c'est quelque chose qui sort beaucoup dans l'industrie. Donc le triple indie, si on veut, là. C'est des indies qui ont essentiellement des publishers derrière, mais qui gardent tout le contrôle créatif sur leur œuvre. Tu sais, on peut penser à des entreprises comme Panache Studio, c'est Patrice Desilets, en fait, qui l'a fondé avec des partenaires. Puis, tu sais, eux autres, ils ont énormément de financement pour faire leur projet. C'est un projet de grosse envergure. Tu sais, c'est des visuels de fou, ouais. Mais c'est eux autres qui contrôlent tout leur destin, même s'ils ont des gens derrière qui les aident financièrement à faire ces jeux-là. Fait que Sinuous Sacrifice, c'est un excellent exemple. N'empêche qu'ils ont été achetés dernièrement par Microsoft, fait qu'on peut plus vraiment dire qu'ils sont indépendants. Là, mais
c'est un peu la même chose pour Ori and the Blind Forest, en fait, qui est considéré comme un des grands jeux indépendants des dernières années et qui pourtant est backé par Microsoft qui a eu énormément de moyens, de budget. Mm-hmm. C'est justement... Bon, le jeu est excellent, le jeu est beau, la musique, les niveaux, tout est fantastique, sauf que s'il n'y avait pas eu Microsoft pour pousser le jeu derrière, est-ce que ça aurait eu autant de succès?
Je vous avoue, j'ai commencé à jouer la game du publishing cette année. J'étais au Game Developers Conference en mars à San Francisco pour mousser mon dernier projet, et puis pour voir s'il y avait un intérêt du côté des publishers et tout. Fait que j'ai commencé à parler justement avec des Microsoft, des Sega, des Atlus, des choses comme ça. Puis je me rends compte, dans le fond, qu'il y a comme deux gros volets. Il y a le volet financement, puis il y a le volet marketing. Tu sais, c'est le volet marketing, puis qu'ils n'ont pas vraiment financé le projet. Là, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus aptes à te donner beaucoup de liberté créative, de ma compréhension. Et puis, si, par exemple, ils donnent significativement d'argent pour faire le jeu, là, à ce moment-là, ils vont peut-être tirer de leur bord des fois, tu sais. C'est normal, je veux dire, c'est un investissement. Eux autres, ils ont énormément de métriques. Ils savent exactement c'est quoi que le marché a de l'air en ce moment. Fait que si t'es en train de prendre une direction que eux autres, ils savent que ça va peut-être nuire aux ventes, ben oui, peut-être que c'est possible qu'ils vont vouloir tirer la couverture de leur bord pour essayer de réaligner le projet, pour être sûr qu'il va être rentabilisé de manière optimale.
Oui, puis parce que d'une manière, c'est plate. Mettons, un jeu que je vais parler comme Celeste, j'ai regardé, mettons, ça va être sur Metacritic, il se ramasse deuxième jeu de l'année, tout de suite après God of War, ils ont le même rank, mais ça doit juste être le nombre de trucs. C'est vraiment très chaud, ça montre à quel point les jeux indépendants peuvent présentement vraiment très bien se placer. Mais c'était un peu triste de voir que la presse a donné vraiment une très bonne note, et des fois, les joueurs, ils ont donné, au contraire, des assez moins bonnes notes. Ils n'ont pas toujours compris tout ce qu'il y avait dedans.
Je pense que Céleste, avec ça, il y a sûrement aussi une frustration avec le niveau de difficulté. Hein?
Potentiellement, mais c'est là où, justement, quand tu dis que le marché du triple A, c'est exactement ce que les personnes veulent. C'est sûr que Céleste peut pas plaire à tout le monde, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, à cause de sa difficulté, surtout que toi, t'es en train de passer le jeu à 100%, et tu l'as toi-même dit, tu sais pas si tu vas être capable de le rendre jusqu'au bout, alors que c'est un jeu sur la persévérance.
C'est pas pour n'importe qui.
Ah, c'est des jeux de niche, en fait, aussi, donc forcément, c'est pour un public précis, alors qu'en général, le triple A cherchait plutôt un mainstream, tu sais, où que tout le monde peut avoir son plaisir, autant, tu sais, OK, avec la gestion d'inventaire, comme exploration, beau visuel, tout ça, pour vraiment que chacun a son petit truc dedans, donc... Alors que dans l'indie, on va se centrer sur une expérience précise plus.
Mais il y a certains genres comme ça qui ne peuvent exister qu'en indie. Le platformer de précision comme Céleste n'aura jamais une portée assez grande pour être faite en version AAA.
Ben, Donkey Kong Country, ou même avant ça, Rayman d'Ubisoft, était quand même des jeux où il fallait avoir énormément de skills, peut-être pas autant que Céleste, mais c'était quand même des jeux très difficiles.
Il y a une différence entre le platformer et le platformer de précision.
Mais il y a une différence aussi, parce qu'à l'époque, le marché, c'était vraiment très différent. On essayait vraiment d'interpeller les joueurs et les joueuses pour leur dire, ah, mon jeu est tellement difficile que vous serez jamais capable de le battre, et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Il y avait tout le projet de recherche à l'Université de Montréal, là, qui étudiait justement toutes ces publicités-là, puis qui voyaient que c'est des jeux comme Donkey Kong Country étaient faits pour beaucoup de monde, mais c'était quand même pas le même niveau de difficulté que les jeux équivalents destinés à un public équivalent aujourd'hui.
Il y avait une question de la durée aussi. Tu pouvais pas avoir un long jeu aussi, donc t'avais intérêt à avoir difficulté pour faire vivre le jeu plus longtemps aussi, en fait. Alors que maintenant, on peut vraiment avoir des expériences qui durent très, 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 très longtemps, voire trop longtemps.
Oui, tout à fait. Ou à l'inverse, des jeux très, très courts, mais comme ils n'ont pas coûté 70$, ça me dérange pas de payer 3-4$ si c'est un 2 heures magnifique. C'est moins cher qu'une soirée au cinéma.
N'empêche que le consommateur moyen pense pas comme toi, je pense
que ça serait possible.
Ouais, c'est ça. Je pense que même si le jeu il est juste 10$, puis que s'il dure juste 2-3 heures, il y a une portion significative des joueurs qui vont dire que le jeu était trop court, puis qu'ils vont peut-être mettre une negative review sur les choses.
Oui, je suis sûr que Abzu ou Journey ont pu avoir des mauvaises notes pour ça, alors que c'est des jeux vraiment magnifiques d'un point de vue visuel. C'est là où, quand je disais que Metacritic va avoir des... La presse va très très bien noter ces jeux-là, mais c'est des fois un peu dommage de voir que les joueurs apprécieront pas tout, et c'est là où je peux quand même comprendre la décision des AAA de jouer sur des saves. OK, on sort un nouveau Assassin's Creed, donc les joueurs qui vont l'acheter sont ceux qui ont joué au précédent et qui ont potentiellement aimé s'ils vont, donc on sait à quoi s'attendre, ça fonctionne normalement par suite.
Clairement.
C'est ça, c'est comme au cinéma, là, ça fonctionne maintenant avec les franchises, puis on essaie de faire suite. Mais pour revenir à la question de la difficulté, mais ça me faisait penser justement à des jeux, oui, comme Celeste, mais aussi comme Shovel Knight, et des jeux comme qui jouent un peu sur nostalgie. Là, on en parlait aussi à la dernière émission, de retour du retro gaming, mais je pense qu'André Philippe, tu voulais parler justement de nostalgie et des liens entre la nostalgie et la jouabilité.
Oui, ben tu savais, je voyais que tu faisais la transition, j'étais comme, c'est trop parfait pour que ce soit pas ma transition. C'est genre comme, ce qui m'intéresse le plus présentement, ben c'est ça. Ben, il faut le dire, c'est un des trucs qui me fascine présentement, parce que à une certaine époque, ce qui dominait en termes de genre de jeux vidéo, il y avait vraiment beaucoup de choses. En tout cas, sur les consoles, c'était quand même le platforming. Quand tu jouais à la NES, à la Super NES, à la Sega, à la 64, il y avait quand même une majorité de platformers. En tout cas, dans les meilleurs jeux, de façon générale, il y avait énormément de clones de Mario qui sortaient sur Nintendo et Super Nintendo, de toutes sortes. Il y avait quand même des jeux de sport, des jeux de course, des jeux multiplayer, mais il y avait une moins grande diversité qu'il peut en avoir aujourd'hui, où il y a vraiment excessivement de genres. Et les jeux de plateforme ont tendance à un peu diminuer, surtout du côté AAA. Genre, en fait, je cherchais des jeux AAA qui ne sont pas sortis sur des consoles portables. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Il y a eu Super Mario Odyssey qui est quand même intéressant. Et je vais dire pourquoi, à mon avis, il est moins que les jeux que je vais parler. Mais c'est ça. C'est plus, à mon avis, du côté indépendant qui vont chercher à la fois ce que j'appelais, il s'agit de la jouabilité, c'est-à-dire la simplicité à l'extrême des contrôles. C'est vraiment, on n'a pas besoin de tutoriel de 30 minutes. On commence à jouer parce qu'on a deux boutons et on comprend assez vite qu'il y en a un pour sauter, l'autre vraiment pour attaquer. Le challenge d'antan, la très grande difficulté comme on parlait juste avant. Le level design tortueux, voire parfois directement méchant, où on ne cesse de mourir, les boss redoutables, le côté hommage aussi, par moments on sent des côtés Super Mario Bros 3, Donkey Kong Country 2, d'autres jeux comme ça qui sont un peu légendaires aujourd'hui. Et tout ce qui est la question de l'innovation, d'une véritable patte artistique, c'est-à-dire l'importance de la narration, des thèmes, de l'aspect visuel et musical, de la nostalgie directement intégrée à l'esthétique du jeu, qui, à mon avis, même les jeux que j'ai précédemment mentionnés, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong Country 2, n'avaient pas à ce point-là. C'était des jeux magnifiques à jouer, qui pouvaient avoir des tonalités, faire ressentir beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a vraiment un travail artistique incroyable dans les jeux indépendants, comme Céleste et Cuphead, qui sont en plus deux jeux canadiens sortis les deux dernières années.
Yes.
Donc, je vais en parler, mais n'hésitez pas à m'interrompre. C'est vraiment quelques notes que j'ai pris parce que si vous connaissez, c'est des interactions. Puis, ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire. Parce que, c'est le problème d'avoir joué beaucoup à ces jeux-là. J'adore, mais ils sont passionnants, mais c'est quand même pas si facile que ça de les présenter. C'est un peu, on est propulsé dans ces jeux-là. Cuphead est sorti en septembre de l'année passée par deux frères canadiens, Chad et Zared Mouldenhauer, j'aurais dû presque à dire ce nom-là, j'avais pas réalisé à quel point j'allais avoir de la misère, employé du studio MDHR, pour ça je suis allé lire les lettres, c'est cool. Donc ça se présente directement dans la bande annonce, que si en passant, les auteurs qui nous écoutent, vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur Steam, regardez le trailer, ça donne une très très bonne idée à quoi ça ressemble. Dès le début, il y a la citation « Now is the time for a great adventure », et ça se présente vraiment comme ça, une sorte de naïveté, une sorte de fun direct, une sorte de odyssée. Le jeu se déroule beaucoup, on affronte des boss. C'est pratiquement juste ça. Il y a quelques, mettons, levels où on se déplace plus dans un monde qu'on doit progresser à la Super Mario Bros. Et autres. Mais c'est vraiment beaucoup de combats dans lesquels on est très proche et les boss se transforment beaucoup. Quelques mots sur la direction artistique. Bon, premièrement, c'est vraiment fait en hommage au premier court-métrage d'animation, avant même que Walt Disney fasse son premier film. On sent un peu les premiers Walt Disney également, mais c'est vraiment ce côté-là. Il citait le studio Fletcher, que je connaissais pas, mais vous connaissez probablement Betty Boops, tout le monde. Ça vient de ce studio-là à l'origine. Et on a vraiment tout ce qui est scratch de pellicule, un peu comme Tarantino peut le faire dans ses films hommage quand il parle de pulp. On a aussi le design des personnages qui rappelle vraiment Mickey Mouse, mais avec une tasse à la place de la tête, d'où le nom du jeu. ça présente aussi un peu les personnages qui sont pas très brillants au début. Ils s'en vont dans un casino qui est tenu par le diable. Ils font beaucoup trop de paris. Ils s'endettent. Et là, ils doivent récolter des armes pour Satan pour éviter, dans le fond, d'être condamnés à perpétuité.
C'est vraiment un bel hommage aux dessins animés des années 20. Là, donc, c'est très, très moralisateur aussi. Là,
oui, exactement. C'est ça. Ben, c'est très manichéen aussi. Uh-huh. Les méchants.
Mais comme les dessins animés de l'époque.
Non, c'est ça. Les méchants ont très de l'air méchants. Et ils cachent même pas qu'ils ont de l'air méchants. On sent toute la méchanceté dans leurs yeux qui font plein de choses. Je vous dirai à la fin comment un des boss se met en force. Vous allez voir, c'est vraiment du grand art. Mais c'est ça, c'est vraiment génial dans sa simplicité. On n'a pas besoin de réfléchir, c'est juste drôle. C'est très le fun de jouer à plusieurs juste pour commenter. Enfin, ok, wow, ils ont vraiment fait ça, ils ont vraiment osé jusque-là. Mm-hmm. C'est là où des fois, c'est bien que ce soit pas un triple A, parce que je sais pas s'ils iraient aussi loin dans un peu des fois l'humour très noir dans ce qu'ils font. Si c'était un triple A, il y aurait quand même... Mettons, c'est Nintendo qui le ferait, le sorte de vernis de non, faut pas.
C'est pas un triple A, mais juste souligner que c'est quand même Microsoft qui a publié le jeu. Puis je mettrais beaucoup l'emphase, le visuel. C'est beaucoup les techniques d'animation qu'ils ont utilisées, qui sont d'antan. Ils ont fait en fait les dessins à la main, tu sais, du 12 ou 24 images par seconde, je suis plus trop sûr. Là. Mais c'est énorme la charge de travail d'animation qu'ils ont fait. C'est pour ça que le jeu a pris 6-7 ans à faire. Là. Ça a été quand même énorme comme charge de travail, juste à cause de ça.
Ouais, en même temps, le résultat est magnifique.
C'est incroyable. Puis ça a été un hook marketing qu'ils ont utilisé aussi. Ouais. Là, que c'est sûr que
c'est un moyen extrêmement efficace de
se démarquer. Puis drôlement, en fait, mon prochain projet, il est inspiré de Cuphead, évidemment, dans les visuels. Et puis, quand je parlais avec Microsoft, justement, en mars dernier, ils m'expliquaient à quel point ils se sont ostinés avec MDHR parce qu'ils voulaient que le jeu soit plus simple puis kid-friendly. Puis MDHR tenait tellement à ce que ce soit super difficile puis plus pour les adultes, puis ils ont gagné leur pari dans leur bout, là.
Ouais, en mon sens, c'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, je ne savais pas du tout, ça va être encore plus à l'apprécier. Déjà, c'est vraiment magnifique, il y a des transitions de malade, mais en plus, si tu me dis que oui, si tout est fait à la main.
Tout est fait à la main, ouais.
Ça explique, parce qu'on avait cette impression-là, mais je me disais peut-être que ça se fait par ordinateur, mais si en plus, ils ont fait vraiment
ben, ça se fait définitivement par ordinateur, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça.
Ils ont gagné leur pari, pareil. Non, mais je trouve qu'il y a un côté beau comme le développement à l'ancienne aussi, rentrer dans la mentalité de l'artisan. Surtout que c'est un jeu vraiment très très dur. Là. C'est des boss fights que je peux recommencer peut-être 100 fois avant de le passer.
C'est clair.
Et j'ai joué à peu près tous les platformers. Donc je suis normalement quand même pas un joueur débutant.
T'es doué dans ces jeux-là d'habitude. Puis là, tu t'es rendu compte vite que oh my god, c'est quoi cette bite-là?
Ça a été fait pour du monde qui a été doué, j'imagine. Là, j'imagine pas l'enfant qui commence à jouer. Puis c'est son premier jeu. Il doit vraiment pleurer beaucoup.
Ça dépend s'il a joué à d'autres jeux trop faciles dans le passé.
Ouais, ben en plus, les derniers Mario te permettent même de passer le jeu pour toi quand tu rushes trop. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, ça. Oui, oui. T'as un mode helper qui fait le jeu pour toi quand tu rushes trop.
Mais je peux-tu ouvrir une parenthèse ici? Parce que j'entends, Julien, tu parlais du platformer de précision tantôt. Je veux savoir, est-ce que des tableaux dans Mario Super Mario Maker peuvent rentrer là-dedans?
Parce absolument. Il y a des gens qui bâtissent leur carrière entière, leur carrière de joueur de jeux vidéo sur passer des niveaux le plus difficile possible. Je pense à Carl Sagan 42, à Grant Poubert, qui sont comme des espèces de célébrités du monde de bien jouer à des jeux vidéo. Je suis une grande fan de speedrun dans la vie, puis c'est un petit peu mis dans la même catégorie, en fait, comme passer des niveaux extrêmement difficiles. Justement, au dernier Games Done Quick, qui est un super gros événement de speedrunning, il y a eu une course de Super Mario Maker, des niveaux... C'est pas techniquement du speedrun, mais tu mets quatre personnes devant un niveau qu'ils ont jamais vu, puis c'est le premier qui réussit à le passer, puis il y a des choses absolument incroyables qui vont même au-delà de ce qu'on peut trouver...
Parce que dans la définition qu'on essaie de comme mettre, c'est sûr que du jeu indie, c'est sûr que c'est vraiment plus dans la production que ça se définit. Mais si on essaie de voir des mécaniques indie qui peuvent ressortir, là, des mécaniques propres à ce type de jeu-là, parce que c'est sûr que quand t'as pas de publisher derrière, tu peux un peu faire une plus grande liberté créative.
Surtout aujourd'hui sur Steam, c'est pas comme si c'était dur de sortir un jeu.
Petite précision, ça n'a pas pris Mario Maker pour se faire. Il y avait beaucoup de jeux avant ça sur émulation qui reprenaient, mettons, Super Mario World en le modifiant dans des versions vraiment malheureusement difficiles. Genre, si tu fais pas tout parfaitement, tu meurs en deux secondes.
Ouais, des modes...
Exactement. exactement.
La culture de mode.
Ben, c'est ouais. ça, comme ben, ça. Les Kaizo, surtout.
Non, exactement, ouais. c'est ça, j'essaie de me rappeler le nom. Mais c'est ça, il y en avait eu, ça fait quand même longtemps. Je sais pas si quelqu'un sait, ça fait combien de temps que ça existe à peu près sur le marché, mais ça doit au moins faire 10 ans, je dirais.
Facilement.
C'est ça. Donc, ça fait quand même longtemps qu'il y a ces détournements-là de jeux comme Mario World, parce que un des problèmes de jeu-là que j'adore, qui a marqué mon enfance, c'est qu'il est beaucoup trop facile quand tu joues aujourd'hui, puis quand t'es quand même un bon gamer. C'est pas un jeu très dur, même Donkey Kong Country. Comme Julianne disait, sont pas si durs que ça quand même comparé à Céleste. Ils restent quand même beaucoup plus durs que Mario World.
En tout cas, moi, quand j'avais 5 ans, je le trouvais vraiment dur.
Bon, moi aussi, ça a été quand même quelque chose. J'étais très content que j'ai passé secondaire la première fois, mais je veux dire, quand tu l'avais, tu le passais vraiment autour de 6-7 ans, je veux dire.
Ah, merci. On refermait la parenthèse. Je te laisse continuer.
Non, mais c'était une parenthèse vraiment très intéressante. Donc, c'est ça. En plus de la pellicule, la musique suit énormément aussi. C'est beaucoup de rythmes jazzés. Il va y avoir des effets de bruitage, des voix d'époque, avec un peu, quand on a l'impression, les personnes qui commentaient les films avec la voix apparaît, c'est des sortes de thank you finish très étiré. Le jeu est aussi hybride dans mesure où il va y avoir des phases où on se promène avec les personnages en platformer et des moments où on est dans des shoot'em up en avion où on tire sur des trucs un peu à la Parodius. Pour ceux qui connaissent, c'est des relativement vieux jeux, mais ça ressemble vraiment beaucoup à ça par moment, les ennemis. Il y aura beaucoup de transformations, de métamorphoses. Les boss se transforment énormément, comme je l'ai dit, dans l'ambiance de fête foraine. Et là, je vais vous parler d'un des boss, celui que j'ai passé hier. J'étais très content après mon 200
fois. Ah, t'as pas fini le jeu encore?
Non.
C'est comme une nouvelle découverte, là.
Je suis rendu, je pense, à 55%.
OK.
Non, je l'ai commencé depuis le début de l'année. C'est juste, je joue pas tant, je joue à plein de jeux en parallèle, ce qui est pas nécessairement bon à ce jeu-là, en plus. Mais c'est vraiment un jeu où t'apprends les mécanismes du boss, puis plus tu le fais, plus t'as des chances de le passer. Plus tu, en plus, à chaque fois que tu meurs, tu vois où t'es rendu dans le boss. Alors, bon, tu fais, OK, yeah, j'ai fait un dixième du boss. Après 20 fois, j'étais comme, OK, yes, il me manque genre un 20e, puis je vais l'avoir, mais je meurs toujours à somme. OK, je ne ferai pas de sac ici, mais oui, c'est un jeu vraiment frustrant, mais c'est ça. Coucou Clock commence comme une horloge grand-mère, c'est la présentation. Immédiatement se transforme en cabane dans laquelle il y a un oiseau immense qui défonce la cabane avec des poussins qui ont des clous qui se promènent, qui flottent dans les airs. Ça, c'est la phase 1 et 2. Ensuite, on a un vilain petit canard psychopathe avec un gun dans un nid volant qui a des petites ailes dans la phase 3. Et là, se passe avec la musique Ride of the Valkyrie de Wagner, évidemment, parce que c'est vraiment cool. Et finalement, après ça, parce qu'on lui a fait quand même très mal, on a un gros canard déplumé que porte deux petits oiseaux infirmiers qui lancent des pilules dans une civière dans la phase 4. Le canard lance son propre cœur en dehors de sa bouche qui nous attaque également. Ses pattes, il donne un coup sur le ventre qui fait sortir le cœur à chaque fois qu'il nous attaque. Et lorsqu'on le bat, les petits oiseaux infirmiers qui étaient quand même encore cute se transforment en oiseaux chef cuisinier qui sont en train de saler et poivrer avec un sourire inquiétant l'oiseau qu'on vient de battre pour éventuellement, on imagine, le manger. Donc c'est là où je dis que...
Ça, c'était un boss.
Oui, ça, c'était un boss.
Ça continue de même tout le long
ouais,
du jeu.
Ouais, il y en a une vingtaine au facilement.
C'est comme ça, chaque boss est à peu près aussi personnalisé que ça. Il y en a qui me fait beaucoup penser au Joker dans une fête foraine avec à peu près tous les trucs que vous pouvez imaginer. Mm-hmm. Une sorte d'immense ballon, un carrousel, toutes ces choses-là. C'est vraiment très, très bien designé et c'est très, très beau également. Est-ce que vous aviez des commentaires, des trucs avant que je passe à Céleste?
Moi, je suis intrigué par Céleste. J'ai pas si.
Ben moi, j'ai beaucoup joué à Céleste, donc j'ai beaucoup d'opinions sur Céleste. En fait, personnellement, je pensais plus en parler en fonction de, en fait, comment Céleste et la communauté du speedrun se sont comme gravitent un peu autour l'un de l'autre. Parce qu'en fait, Céleste, bon, comme j'ai dit plus tôt, c'est un platformer de précision, donc c'est vraiment difficile. Qui est quand même de un vraiment beau et de deux plutôt fair et de trois avec une histoire extrêmement intéressante, donc ça tient son bout en termes de thèmes de ça parle de dépression, d'anxiété. Il y a des bien belles métaphores, des super beaux liens entre la narrativité puis le
jeu. J'ai pas joué, mais ça me fait penser un peu aussi à Undertale, pas dans la mécanique de jeu, mais dans les thèmes.
Mais c'est un peu ça, en fait. Il y a les liens entre le jeu lui-même puis l'histoire sont bien bien développé, bien exploité, c'est quand même...
Je préciserais que la métaphore des débuts, vu que tu parlais de dépression et d'anxiété, la métaphore de la montagne, c'est vraiment l'idée de la persévérance. Je monte une montagne, c'est comme ma quête initiatique, ou en tout cas, de se retrouver à l'intérieur de soi.
Ben oui, justement, la montagne dans Céleste. Céleste, c'est la montagne, pas le personnage. Le personnage s'appelle Madeleine. Et son double méchant, qui est genre la personnification de son anxiété, qui est Badeline.
Ah, porte un nom, ok.
Alors, c'est, ben, c'est pas un officiel, justement, ça revient avec mon histoire de communauté, c'est que les développeurs sont très au fait de la communauté, les termes. Donc, Badeline, c'est un terme qui était utilisé en développement, puis qui a été réutilisé par la communauté. Donc, le monde du speedrun aime beaucoup nommer les choses parce que c'est important de savoir où faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, puis d'avoir des noms. Donc, justement, il y a Badeline, mais une chose que je trouve particulièrement bien, c'est qu'il y a, en fait, c'est pas un des développeurs à proprement parler, c'est les gens qui ont fait le sound design. Donc, les gens de Power Up Audio qui sont super impliqués dans la communauté du speedrun, qui font l'audio pour les Games Done Quick, etc. Puis, justement, dans le jeu, il y a une de ces personnages qui est Kevin from Power Up Audio, qui est un peu un personnage du speedrun. Il speedrun les jeux lui-même, puis comme un peu une présence. Puis c'est lui qui a fait le son pour un des items, ben pas un des items du jeu, mais un
les power-up, en fait, genre.
Oh, non, mais c'est un bloc que quand tu smashes dedans, il bouge en faisant.
Ah oui.
qui ont évidemment été renommés en Kevin Blocks. À cause de, justement.
Je peux faire une parenthèse sur le speedrun aussi, qui est. C'est une pratique qui existe depuis longtemps, mais qui n'a jamais été aussi populaire qu'elle l'est en ce moment. Au dernier SGDQ, ils sont allés chercher comme 2,1 millions de dollars pour la charité. C'est le plus gros amount à date. Le plus gros montant qui a jamais été eu par le SGDQ à date. Fait que moi, je suis en train de me demander à quel point dans ma stratégie marketing pour les jeux vidéo, parce que quand que je développe, évidemment, j'essaie de frapper un marché, à quel point j'essaie de rendre ça comme speedrunnable,
si je veux dire. Speedrun friendly aussi.
Ouais, c'est ça. Mais il faut le dire, la plupart des jeux maintenant indie viennent avec un mode speedrunning. J'ai vraiment été fasciné quand j'ai vu ça, qu'ils doivent enlever, j'imagine, toutes les cinématiques et ce genre de choses.
En fait, ça prend deux choses pour qu'un jeu soit speedrunnable. Ça prend un moyen de passer les cutscenes, et ça prend un timer pour pas que ton temps de chargement soit compté dans ton temps, mais c'est justement les speedrunners eux-mêmes qui disent ça. Puis si ton jeu est juste comme correct, il va être speedrunné, c'est sûr et certain. Mais si tu mets un effort particulier pour rendre ça accessible à la, pas nécessairement accessible, mais pour être à l'écoute de la communauté du speedrun puis tout ça, ben là, ça va être vraiment speedrunné. Justement, on revient à Céleste, qui est en ce moment le jeu le plus speedrunné sur speedrun.com. C'est un petit jeu indie, c'est pas comme...
Mais il me semble qu'il a été fait par deux speedrunners en plus.
Mais c'est ça, ça a été fait par des speedrunners, puis justement, les développeurs ont speedrunné le jeu avant même qu'il sorte.
Ben, on le sent, je veux dire, c'est fait pour être vraiment excessivement
huilé. Mais justement, ça a un impact sur à quel point les gens vont le speedrunner.
Oui, c'est clair. C'est clair que, tu sais, ça, c'est... Le temps nous l'aura dit, tu sais, de développer les mécaniques où est-ce que ça simplifie la vie à la communauté pour X ou Y raison. Je me rappelle avec notre premier jeu, Epic Manager, quand on l'a sorti, les streamers, tu sais, c'était comme Twitch qui prenait son envol en 2016. Puis les streamers qui jouaient à notre jeu, ils disaient, ce serait cool de pouvoir renommer les personnages. J'étais comme, évidemment qu'il fallait que tu renommes les personnages. comme en dedans de deux jours, on a mis une patch pour que tu puisses renommer les personnages. Mais c'est comme des trucs qu'on pense pas au début. Puis après ça, quand tu commences à comprendre un peu mieux ton marché, ben genre là, tu vois, ah, ben oui, évidemment qu'il faut que je rajoute ça.
Une autre chose qui a un impact aussi, c'est à quel point tu patches les choses que les speedrunners trouvent. Parce qu'un speedrunner va briser ton jeu, c'est sûr et certain. Par exemple, dans Céleste, il y a la plupart du mouvement comme avancé, t'es montré directement comme dans les niveaux, dans les derniers niveaux. T'apprends un mouvement comme au dernier niveau du jeu. Bien sûr.
C'est cool.
Mais c'est des mouvements que tu peux utiliser dès le début.
Mais évidemment, les speedrunners ont trouvé comme plus de choses. Mais une chose qui qui donne vraiment envie à ta communauté de continuer, c'est de pas patcher les choses qu'ils trouvent. Mm-hmm. Parce que si ça affecte pas le gameplay normal d'une personne normale, en général, les speedrunners vont considérer que... Bon, c'est sûr, si ça brise le jeu, pour le joueur moyen, c'est un peu moins le fun. Mais justement, de savoir que ton développeur, oui, mm-hmm. bien sûr, et
ah oui, il est à toi. On est proche avec le public, là. C'est lui.
Ouais, c'est ça.
On appartient à tous.
À votre service.
Ouais, c'est ça.
Mais si t'as pas l'impression que aussitôt que tu trouves quelque chose, ben ça va être patché dans le prochain, ça
mais non, tu sais, comme si je donne un clin d'œil derrière le rideau, là, comme patcher un jeu, c'est pas facile quand il y a pas beaucoup de gens dans une équipe non plus, tu sais, parce que déjà t'es en train de régler des bugs, t'es en train de régler, tu sais, de rajouter du contenu, peut-être en train de penser à ton prochain jeu, des équipes de 4-5 personnes des fois, tu sais, fait que quand que tu vois des, tu sais, c'est pas ah maudit j'ai vu un bug, là tu y penses sérieusement, ok, est-ce que 1% des gens vont voir ce bug là, est-ce que c'est 0.1, parce que si c'est 0.1, honnêtement je vais peut-être le laisser, parce que nous autres dans notre premier jeu, encore une fois, il y avait comme des millions de possibilités de classes, puisqu'on faisait beaucoup de multiclassing, c'était un RPG de jeu de gestion vraiment comme compliqué. Puis il y a un joueur à un moment donné qui m'a dit en passant, quand tu fais ce combo là puis là, puis tu le mélanges avec ce combo là puis là, c'est vraiment ridiculement fort. Puis là j'ai regardé le joueur sur Steam, il avait joué comme 500 heures. Là, j'étais comme ouais, je pense que bravo, puis je pense pas que je vais toucher à ça. Je pense pas que ça vaut pas la peine de comme rebalancer mon jeu en entier parce que t'as trouvé la faille après 500 heures.
Surtout, je connais pas le jeu exactement, mais est-ce que c'est un jeu vraiment très compétitif où il y a des milliers de joueurs qui s'affrontent,
ça apparaît sur un forum, tout le monde veut single player en plus.
Donc là, c'est vraiment moins
grave. Aucune incidence dans le balancing, vraiment.
C'est sûr que pour un jeu compétitif, là, t'as intérêt à faire du balancing.
C'est clair.
Là, ça a vraiment du sens et tout, mais d'ailleurs, le speedrun de jeu compétitif, ça n'existe pas vraiment.
Non, c'est ça.
Donc, ça règle un peu le problème.
Ben, c'est là où c'est des très petits détails, et je retournerai juste sur celle-là, juste pour dire quelques éléments intéressants. Je vais pas empêter trop sur ton temps. Ça va?
Oui, il y a pas de soucis.
Tu y a eu de ça, je te laisse, là. J'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est ça. Une autre chose qui est vraiment cool dans celle-là, c'est la diversité des personnages. On a des personnages féminins, personnages racisés, personnages âgés également, qu'on n'a pas toujours dans les jeux vidéo.
Fait qu'il y a trois personnages, mm-hmm. une fille, un dos de l'ethnicité un peu douteuse, mais sa barbe est magnifique.
Comme tu l'as dit, il y a deux personnages féminins, celui qui te dit le nom renommé,
ben,
c'est un double, mais Madeline.
Ouais, ben, Madeline et Badeline qui sont la même personne.
Mais qui font deux personnages, par la force des choses.
Ben,
je veux dire, c'est vraiment les deux personnages qu'on voit le plus.
Ben, divulgacheur, là.
Ben ouais.
Ah wow. Oui, désolé, alerte de divulgacheur. Il y a un double, à partir du moment où on se voit dans un miroir, il y a un double qui nous poursuit. Hein,
fait que, on spoil comme le chapitre Link. 2.
Oui, vraiment, comme Dark Link.
Puis, il y a comme un... Non, c'est pareil, il y a quatre...
Il y a aussi un personnage blanc, mais c'est pas du tout un personnage, mettons, à la Contra, un personnage par gars blanc, comme on a normalement dans beaucoup de jeux vidéo.
À la masculinité.
Spoiler alert, c'est un fantôme.
Oui, exactement. Même lui est spécial à sa manière, c'est un personnage très gêné, mignon, à part qu'il veut te tuer, là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Très rapidement, ce qui est vraiment chouette, c'est justement la quête qu'il y a avec Badeline. Au début, comme je disais, elle veut nous tuer. Ça commence par une qui veut nous tuer, après ça, se multiplie par trois, après ça, par cinq, qui font exactement en plus le même chemin que nous. Donc t'as vraiment un peu l'impression quand tu joues à Mario Kart puis t'as le fantôme qui te suit, c'est exactement ça, puis s'il te rattrape évidemment il te suit. Mais éventuellement, après qu'elle a essayé plusieurs fois de te tuer, il y a une réconciliation avec ce personnage là et elle te propulse dans les airs, les deux comme s'unissent ensemble et arrête pas de se faire des jumps. Il faut que tu la retrouves pour jumper. Avant ça par contre, dans le cinquième monde qui s'appelle Mirror Temple, c'est vraiment cool, c'est très métafictionnel. Pour ça, la plupart des choses renvoient à une sorte de dualité. On a la confrontation avec le double qui, une fois qu'il est vaincu...
Juste un petit... Le double, c'est pas dans le Mirror Temple. Quand tu te bats avec...
La scène avec les aurores boréales.
Ouais, non, c'est ça, c'est pas...
C'est tellement un nerd battle en ce moment.
Non, mais j'ai passé tellement...
Beaucoup.
J'essaie de le finir, comme il y a énormément de contenu. Il y a l'histoire avec des trucs cachés, des objets à ramasser. Puis après ça, t'as comme... une deuxième étape, il y a trois montagnes à monter, t'as une deuxième étape où est-ce que les niveaux sont de la même longueur, mais comme plus vraiment plus difficile. C'est comme un autre par-dessus où est-ce que les niveaux sont beaucoup plus, beaucoup moins longs, mais ô combien plus difficiles.
Ok, peu importe
j'ai pensé
où c'est.
Exactement.
Non, de pas penser trop dans ça, c'est magnifique. Peu importe où c'est exactement dans le jeu, ça, cette compensation-là mène à une chute dans le jeu. Tu fais juste tomber sur la montagne que tu viens de monter, puis ça dure 21 secondes. Tu pètes juste sur le tableau, t'as vraiment l'impression de tout descendre ce que tu viens de monter. Après, généralement, si t'es pas un excellent joueur, au moins un mois probablement de progression. Puis c'est dans une scène magnifique où on vient justement d'assister à des belles aurores boréales dans des couleurs froides qui représentent le calme. D'ailleurs, quand Leren utilise un jump, ses cheveux se transforment en bleu. Que ce côté-là aussi, elle a une plume qui permet de relaxer. Il y a toutes ces images-là et le double négatif apparaît. Il y a des tentacules, des couleurs chaudes. Le personnage sort littéralement de sa case de texte pour montrer à quel point il est puissant. Et finalement, elle détruit la plume que Leren se sert pour se calmer, pour méditer à chaque fois qu'il est un peu anxieuse. Et c'est là que survient la chute.
C'est intéressant, tout le volet.
Oui.
Tu sais, on amène une dimension comme émotionnelle un peu. On essaie de parler d'anxiété. On parlait des thèmes tantôt. Je me demande à quel point aussi ça devient de plus en plus populaire de parler de ces choses-là. Je sais qu'à l'E3 cette année, il y a un jeu indie qui sortait qui s'appelait Sea of Solitude, qui parlait justement de la solitude, un peu de bullying.
Ça rend les jeux beaucoup plus humains. Peu importe c'est quoi ta mécanique, là, on a une plateforme de.
Mais c'est ça l'affaire. C'est pas que c'est peu importe c'est quoi la mécanique, parce que ces thèmes-là sont intégrés directement dans la mécanique de jeu. Ça, je trouve ça super intéressant. Exactement. Parce que, tu sais, en général, les plateformers, c'est assez straightforward, c'est assez comme direct. On avance, on doit sauter, on doit faire quelques tours. Mais là, on dit que c'est... Parce que j'ai pas joué, là, mais c'est vraiment investi d'un message, parce qu'on essaie de monter une montagne, mais monter la montagne, ça veut dire autre chose. Puis chaque geste que le joueur ou la joueuse pose dans le jeu est significatif et renvoie à quelque chose d'autre qui parle d'anxiété, qui parle de ça, qui parle d'affronter son anxiété ou...
Mais justement, les mécaniques du jeu sont liées à ça.
Exactement.
Justement, la plume dont on parle, c'est comme... Il y a des personnages qui te donnent le truc... pense à une plume pour te calmer, fais voler la plume avec ta respiration, puis plus tard dans le jeu, ben il y a une plume qui te fait voler, puis t'as besoin d'utiliser la plume pour te rendre à des endroits.
Parce que pour la plupart de ces émotions là, c'est comme des émotions qu'on peut entre guillemets dire qui sont négatives. Tu sais, c'est comme le feeling de ça. C'est pas toujours beau.
C'est pas euphorique.
C'est ça, exact. Et puis je peux, tu sais, c'est vraiment chez les indies qu'on va être capable d'aller explorer ces thèmes là, parce que chez un triple A, ça serait risqué de peut-être trop s'associer à quelque chose de négatif au lieu de que ce soit positif.
Le triple A, très peur de se mouiller.
Mais oui, c'est ça, exact. Puis c'est là qu'on tire notre épingle du jeu.
Juste finir très rapidement sur ça, c'est vraiment la dernière fois que je parle
là, de ça. Céleste, ça fait 20 minutes qu'on en parle.
C'est cool, un bon jeu, mais... Les côtés négatifs, ce qui est cool, c'est qu'il y a un côté réconciliation. C'est vraiment... Tu veux pas juste annihiler ton adversaire, tu veux te réconcilier avec, c'est une part de toi. Et chaque tableau, autant il y en a un qui est plus labyrinthique, un qui est plus côté sombre avec les personnages, un qui est plus l'orientation du vent, le changement des épreuves. Donc, tout représente des thèmes d'une certaine manière. Et juste retourner sur Mirror Temple, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cool dans ce tableau-là. Quand on est en dernière partie du tableau, on doit porter Théo, le personnage noir, qui est dans un cristal, ce qui est, soit dit en passant, une déconstruction du trope genré où généralement c'est les personnages féminins dans Zelda qui se ramassent dans un cristal. Là, c'est le gars, il te demande, s'il te plaît, peux-tu me porter, parce que je veux pas rester là, ça va pas bien. Et en plus, il y a plein de dieux qui nous regardent, il y a des créatures Lovecraftiennes qui représentent un peu nos démons intérieurs. Et quand on écoute la musique, ça sonne familier, parce que c'est la même musique qu'on a entendue au début du tableau, mais jouée à l'envers. Et quand on s'amuse à écouter le tableau, à rembobiner à l'envers, à écouter la progression, ce qu'on entendait au début, qui était des chuchotements, des soupirs quand on traverse la première fois dans le tableau à l'endroit, devient une voix du personnage, de son intériorité, qui dit ses doutes. Et je vais juste vous lire un extrait, parce que c'est quand même vraiment très puissant et léger, trigger warning. C'est quand même sur la dépression, donc c'est quand même quelque chose d'assez sombre. Donc, c'est le personnage qui parle. « Parfois, je ne comprends plus ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas qui je suis. » Il y a un long soupir. « Je fais juste regarder le miroir et je ne sais pas qui je suis en train de regarder ou qui est en train de me regarder. » Et plus loin, ça continue un peu. « I don't like scaring myself. I don't. » Et la phrase se finit juste pas. Il y a juste un soupir final. Et tout ça dure à peu près une minute à deux minutes. On a juste cette voix-là très, très lasse de tout, qui a l'impression de jamais s'en sortir.
C'est très cool. Puis je peux vous garantir que ça, c'était une intention du développeur. C'était pas comme un Easter egg qu'un programmeur X ou Y a comme glissé dedans. Je pense que vraiment, là, il y avait quelque chose qu'il voulait faire.
Mais c'est ça qui est bien des deux aussi, là, c'est ça.
Il y a une cohérence dans la symbolique, etc. Donc, ouais. Ça, mais... l'intégration de la narration dans le design. Donc, c'est, on voit que tout est pensé et designé. Puis,
Ouais, puis ça se retrouve justement dans la bande sonore. J'avais. Il y a une excellente vidéo sur YouTube sur la composition de Céleste, comment ça évoque l'anxiété sans être anxiogène, justement comment la compositrice Lena Rain a comme channelé sa propre anxiété pour composer.
C'est l'avantage des petites équipes indie, c'est que les programmeurs parlent avec les designers, c'est pas comme des courriels envoyés à des centaines de personnes.
Les meetings sont fins.
On sent que les personnes qui ont fait ça étaient très d'accord sur comment le faire et tout renvoie à ce qu'ils ont voulu faire. Il y a même un petit history quand tu parlais de leur jeu précédent, Towerfall. C'est hyper dur l'atteindre, mais il y a une salle comme que si je voudrais m'y rendre, ça me prendrait probablement une journée cachée complètement dans une place qui te montre les personnages simplement de leur jeu précédent.
Ben, il y a ça dans Céleste aussi.
Ah, c'est ça, c'est Céleste
que je parlais. De
Towerfall. Bon, on va transiter de Céleste.
Ouais, ben on va faire encore de difficultés et tout, parce que moi j'avais parlé de roguelike en fait, ou de roguelite ou de roguelike moderne. Enfin, il y a comme souvent un peu. Qui a vraiment joué à Rogue au moins une fois?
Ben, Rogue Legacy, j'imagine la plupart du monde ont connu ça par ça, j'ai l'impression.
Ben, le Rogue des années 80, ben, moi j'ai jamais joué, mais je joue à beaucoup de roguelike. C'est un peu particulier de dire qu'en fait on appelle l'appellation roguelike, mais en fait je me demande vraiment qui a vraiment joué à Rogue. Dans les gens qui jouent en ce moment à des roguelikes, mais bon, ça c'est une question un peu d'appellation et tout, mais je sais pas, toi Christophe, t'as déjà joué à Rogue au moins une fois?
Ou... Non, j'étais pas né en 80.
Ouais, ben c'est ça, ben...
Merci Margot.
Non, mais c'est du rétro qui fait
ça. Si on monte il y a très longtemps, en 2013, il y avait Rogue Legacy qui était quand même un des premiers indies qui ramenait ça.
Mais c'est oui, ça, et pourtant maintenant j'ai l'impression que le roguelike ou le roguelite est vraiment devenu un genre de plus en plus populaire, un genre que vraiment, qui est exclusif un peu. Au indie, je pense qu'il n'y a aucun jeu AAA qui utilise cette
c'est pas un peu spécial, mais Diablo 2 l'utilise d'une certaine manière.
Diablo, c'est inspiré en fait, de Rogue, en fait, justement. Oh, c'est ça. Il y a une inspiration, mais ouais.
ça
juste pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas le roguelike. Avant de commencer à se signer, c'est quoi un roguelike?
C'est ça, exactement. En fait, le roguelike, c'est inspiré d'un jeu qui s'appelait Rogue, tu sais, comme on dit des GTA-like. C'est le même principe et tout. Donc on va dire il y a comme trois éléments qui sont super importants, c'est le permadeath. Donc c'est-à-dire que quand tu permadeath, comme quand tu meurs pour de vrai et tu dois recommencer à zéro
pendant la vraie vie dans le jeu.
Ouais, c'est ça, heureusement que comme des limites à la difficulté là. Et donc l'élément aussi super important, c'est que c'est du procédural, donc soit en termes de génération du terrain, soit en termes aussi en fait de randomisation des monstres, des objets, etc., que tu peux avoir. Donc à chaque partie que tu commences, l'expérience n'est pas la même, en fait. Tout ce qui va être, en fait, le donjon, parce que du coup, le troisième élément, c'est souvent qu'il y a un aspect assez donjon crawler, en fait. C'est-à-dire que souvent, c'est un peu au niveau couloir, on va dire, les roguelikes. Donc vraiment, tous ces éléments font que c'est un jeu qui a une énorme jouabilité. Et en général, ça génère de la difficulté parce que justement, en fait, pour atteindre la fin du jeu, ça demande des heures et des heures de pratique et aussi de bon hasard et d'adaptation un petit peu au hasard qu'on va avoir pour réussir à enfin finir le jeu. Mais en général, on veut faire une belle partie parce qu'on veut du coup voir comment les combos qu'on pourrait re-avoir se passent, quel type de niveau on va tomber dessus. Donc on va continuellement un peu vouloir rejouer un peu sans fin. Et donc il y a eu beaucoup de jeux qui ont indie, donc comme Binding of Isaac a repris ce principe là aussi, il y a eu FTL aussi, un côté plus stratégique, et cette année il y a eu plusieurs jeux aussi, dont Slay the Spire, qui est, je pense, un jeu que personne n'avait vu arriver, qui mélange roguelike et deck building. Donc du deck building, c'est vraiment un peu, pour ceux qui connaissent un peu le board game, c'est comme Dominion en fait, c'est vraiment un jeu de cartes où on va acheter des cartes de plus en plus pour monter un deck. Et ce deck-là, on va pouvoir se combattre avec. Donc, Slay the Spire, c'est un jeu solo où on va à peu près une durée de 1h30 pour comme faire les 3 boss qu'on va avoir. Et donc, on va avoir un petit deck au début, puis on va comme rajouter une carte à chaque combat qu'on va avoir. Et l'idée, c'est vraiment de se faire un deck vraiment fonctionnel avec des bons combos et réussir en fait à battre des monstres de plus en plus difficiles. Il y a comme 3 personnages qui ont chacun un peu leur deck particulier. Donc c'est vraiment du tour par tour. On choisit une carte pour attaque ou défense, on la joue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu la télégraphie des monstres, c'est qu'on sait ce que le monstre va te faire. Donc tu fais la réaction en fait. Donc c'est vraiment de la pure stratégie. On a tout le temps qu'on veut. On est comme ok, là j'essaie ces cartes là en main. Je choisis, est-ce que je fais, je vais essayer d'attaquer le plus fort ou est-ce que j'essaie une protection. Je joue des cartes compétences pour essayer de mettre du poison, etc. Donc vraiment, on est dans un jeu où on construit un deck, puis on essaye vraiment de jouer un peu avec le random. Puis moi, c'est vraiment un jeu que j'ai commencé à jouer. J'étais comme ok, on va voir si ça va être bon ou pas. Puis j'ai juste été comme accro. Là, je suis comme à moi, je suis à la centième heure. Ça fait comme peut-être un mois et demi, quoi. Tu sais, ouais, j'ai pas le temps pour jouer là.
Je pense que c'est un excellent jeu, tu veux l'aimer, faut que ce soit un peu addictif. Là, si t'as pas ce côté là, je veux rejouer, je veux.
Oui et non, parce qu'il y a comme des jeux qui sont des expériences, tu sais, comme narrative et tout. T'es pas, tu vas aller jouer une première. Tu vas aller jouer comme Firewatch. Tu vas jouer genre où? Tu peux le faire en moins une fois, mais il n'y a pas de...
Je parle dans les rugs.
Oui, oui, c'est que c'est vraiment l'addiction et fait partie du plaisir, enfin, est vraiment importante.
Ça. De la jouabilité, de bien de mécanique, en fait.
Donc, là, exactement, c'est ça, le côté procédural et tout, et va donner cette nouveauté continuelle, donc la rejouabilité, et en général, ça va être très difficile pour justement forcer un peu de rejouer. Il y a vraiment une montée de compétences aussi. Bon, autant pour des jeux roguelike qui vont être plus sur l'adresse ou sur, tu sais, comme le platforming, etc., où là, justement, il y a vraiment une compétence à obtenir en termes techniques de réflexes, mais aussi, on va dire, dans les jeux tour par tour, ou aussi Into the Breach, dont je vais parler un petit peu après, où c'est vraiment des compétences de type stratégique et tactique, de compréhension du système, qui va permettre de pouvoir de plus en plus faire les meilleurs choix qui vont permettre, en espérant, si le hasard est avec toi, de finir le jeu au moins une fois.
Très cool.
Ouais, mais c'est ça, contrairement aux platformers de précision, le roguelite, tu peux pas maîtriser justement ce jeu-là à la seconde ou à la milliseconde. C'est ça. Près, là, il faut sans arrêt s'adapter.
C'est vraiment des gros enjeux de design, là. Je trouve c'est comme. Puis, dans le cas, en fait, de Into the Breach et Slow Spire, c'est vraiment des deux studios très indie, là. Et je pense qu'ils sont les deux à Seattle. Je sais pas s'il y a un hasard ou pas. Mais quand même, vous dire, c'est du indie, mais Slow Spire, c'est comme 2 millions de copies, là. Et c'est encore en early access, là. Le jeu est même pas encore sorti, il fait 2 millions de copies. Ils sont comme deux gars, là.
Si moi j'étais le développeur, je le finirais le plus vite possible, puis je ferais Slay the Spire 2.
Je pense que le
2 millions de copies,
rendu là, tu peux avoir une équipe dédiée pendant un an pour rendre ça parfait.
C'est genre,
parfait.
En plus, t'as vraiment des possibilités, parce que tu peux rajouter des personnages autant que tu veux. Et donc, chaque deck, en fait. Chaque personnage a son propre deck un peu avec ses propres combos. Et après, je pense qu'il y a comme à peu près 200 cartes en fait par personnage qui offrent au moins 3-4 stratégies dominantes, on va dire, genre tu sais la silencieuse, celle vraiment il y a comme du poison, il y a un vraiment truc, c'est le discard aussi beaucoup. Donc vraiment tu sens qu'il y a comme des decks qui sont vraiment plus faciles à faire pour gagner. Ils ont voulu vraiment restreindre un peu le nombre de possibilités. Tu sais, on peut pas dans un truc un peu à la Magic où on va comme à jouer trop de trucs, mais en fait je fais un côté à Magic parce que justement en fait ce jeu là est intéressant parce que donc c'est deux créateurs et il y en a un qui est un énorme fan de Netrunner. Je sais pas si vous connaissez
c'est un classique.
C'est ça, et en fait lui il tenait le site de fans de Netrunner. Il a utilisé sa communauté de fans, de où il est fan finalement, pour comme que eux testent son jeu en fait.
Ah ouais.
Donc ça a été vraiment, je pense, la clé de son succès, c'est qu'il a vraiment rapidement, il a fait ok, donc moi je vais faire un jeu deck building comme solo. Je vais rapidement aussi faire un système aussi de data aussi. Donc en fait vraiment chacune des cartes qu'il crée, il savait que quelqu'un jouait au jeu, il savait en fait les chances de cette carte-là de gagner, d'être de faire gagner le jeu en fait. Ce qui fait qu'il pouvait en fait faire baisser la puissance des cartes par rapport justement à cette data qui se faisait produire en fait, plus les gens testaient le jeu, plus ils pouvaient en fait balancer. Et même récemment, j'ai utilisé une carte, puis... elle avait changé, genre j'étais comme fuck, ils l'ont comme abaissé là, genre c'est comme
c'est vraiment intéressant parce que c'est dans les tournois de Magic, Yu-Gi-Oh, peu importe, ils actualisent, ils bannissent des cartes de temps en temps quand il y a une stratégie qui est trop forte, mais là c'est vraiment beaucoup plus rapide.
C'est ça, c'est plus facile, c'est vraiment tout ça. Donc vraiment c'est puis en fait je pense que pour elle, c'est là qu'on ça pour Into the Breach aussi. Finalement, c'est pourquoi j'aime autant ce genre de roguelike tour par tour, c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que tes parents, genre, moi, c'est doué de jouer, de finir The Witcher. Pourtant, j'ai commencé The Witcher avant, puis je pense que je suis à 50 heures, puis là, je suis à 100 heures de... Pourtant, le jeu est comme beaucoup plus court, et c'est justement ça. En fait, je pense que quand je me mets dans Slay the Spire, je suis comme, c'est très, très, très rapide. Je suis comme nouvelle partie. Tout est accord à zéro. Donc vraiment, toutes les chances sont possibles, toutes les possibilités, les récompenses aléatoires sont énormes. Alors que le temps que je me mets dans un Witcher, je me dis, ouais, ok, il faut au moins que j'ai au moins 5-6 heures devant moi, tu sais, un samedi après-midi pluvieux, là, je vais me mettre dedans. Là, je peux vraiment, ok, je rentre la job, je fais un Slay the Spire, ok, là, j'ai perdu, je rejoue une seconde partie. Là, il y a mon chum qui arrive, ok, c'est bon, on fait une partie, on joue en train de se checker, en train de jouer, puis il dit, non, mais t'as oublié ça, putain. Oh fuck là, et puis c'est. Puis tu sais, donc vraiment une pratique comme ça qui va être facile en fait à rentrer dedans et qui offre en fait des possibilités de. Comme on s'ennuie pas, même si on va perdre et qu'on va recommencer à zéro,
c'est la compulsion de juste une autre.
C'est juste aussi petite parenthèse, c'est un des exemples d'un early access qui fonctionne, alors que il y a beaucoup d'exemples parce que early access est très mal vu, parce que les gens voient un bug puis sont comme ah, il y a un bug, downvote, tu sais.
early access. Parce que justement, je pense que si le jeu était pas, et ça c'est un des trucs aussi des roguelikes qu'il faut qu'ils soient fair là. Même et donc gérer de la fairness en fait quand t'as un jeu procédural, c'est tout un enjeu aussi. Et là justement dans tous les exemples de bons roguelike tour par tour, bah là c'est, ou même en général des roguelike, il faut que ça soit à peu près honnête aussi, que les parties on sent que oui effectivement il y a comme des excellents combos que tu vas avoir, mais là ça va être vraiment être facile, mais même quand c'est un peu plus difficile, il faut avoir des chances de pouvoir s'en sortir malgré tout, et ça ils ont bien réussi à le faire aussi en fait.
Très cool.
Ouais.
Bon, mais qu'est-ce qui serait cool, Megan?
Qu'est-ce qui serait cool?
Qu'on dise chacun, genre, notre jeu du moment. C'est là que tu t'en allais.
Ouais, c'est là que je m'en allais.
Great minds.
on tu vis dans mes pensées. T'as géré ma caméra tout le long, je t'en Mais oui, c'est ça. On peut faire un tour de table pour votre jeu suggestion ou votre jeu préféré des deux dernières années ou votre jeu préféré indie de tous les temps.
Je vais commencer. Ok, vas-y. Oui, je vais commencer. Là, j'y tiens.
Okay. Non, c'est pas vrai. J'ai assez parlé.
Mais il y a. En ce moment, il y a Boyfriend Dungeon sur Kickstarter de mes amis chez Kid Fox. C'est un jeu où tu peux avoir une relation amoureuse avec ton arme. J'en dis pas plus. Allez voir sur Kickstarter.
Okay, je vais faire la joke que j'ai faite tantôt. C'est Xenoblade Chronicles à l'envers.
Oui, exact. Fait que je vous conseille d'aller voir ça sur Kickstarter. Ouais. La vidéo vend mieux le jeu que mes paroles peuvent le faire. Mais ça vaut vraiment la peine. Ouais. C'est la première journée qui s'est sortie puis ils ont déjà comme 50 000 $. Fait que c'est sûr et certain que ça va être
des mois que je suis comme genre je veux ça là, tu sais. J'ai l'impression que ce jeu était pensé pour moi, mélanger du dating avec de la simulation,
avec des armes.
Comme vraiment du donjon, c'est comme parfait. Là, genre.
Yes.
Ça me fait rire parce que j'ai un de mes amis qui jouait à Pillars of Eternity 2, puis il avait pogné une arme, puis il essayait de séduire son épée. Donc là, maintenant, il va être vraiment content de savoir que
c'est
un
jeu qui est pensé pour lui.
Moi, je veux une waifu pilote de l'épée.
C'est ça.
Juliane, ta suggestion.
Moi, ça va être Getting Over It with Bennett Foddy.
Oh. C'est vrai que quand même.
Ouais.
C'est donc, horrible, mais oui.
Ben, c'était un.
C'est un homme tronc dans un
chaudron qui essaie de monter une montagne avec un pic à glace, avec une pioche, ouais.
Comme dans celle-là, c'est plus sans la retomber.
Oui, c'est ça.
Ça m'est arrivé souvent.
Ça se peut que tu retombes jusqu'au début, donc.
Est-ce que t'as monté?
Ça prend. C'est extrêmement long à passer. Le speedrun dure 1 minute et demie.
Oui, wow. J'ai vu ça live, c'était sublime.
Je pense que j'ai fait beaucoup pleurer cette soirée.
C'était le premier pensé et tout, genre, le speedrun comme ça, en si peu de temps, il était pensé design.
Mais c'est que le jeu, la longueur du jeu vient principalement du fait que c'est extrêmement difficile, puis que si tu fais une erreur, ça se peut que tu perdes des heures de progrès.
10 minutes de ton progrès, c'est ça.
Ah bon. Mais quand t'es bon, ben, tu perds pas de progrès, fait que ça va très vite.
Yep.
Margot.
Bah moi c'est j'ai refaire Slay the Spire puis aussi Into the Breach que tu sais qui sont vraiment je pense en ce moment des jeux que je joue vraiment fortement que je suis obsédée par ça mais
je vais rajouter un roguelike là-dessus Crypt of the Necrodancer.
Ah ouais.
C'est vrai que c'est fort. Ça fait un petit bout ça par exemple.
Ouais, ça commence à faire un petit bout. Ça 3 ans, 2 ans.
Ça passe vite, Andy, quand
ça va très vite.
Hein. Avec le tapis de DDR. Puis,
ah oui!
Oh, c'est parfait.
C'est sûr que, bah, Into the Breach, c'est vraiment les gens de FTL, donc aussi, c'est sûr que, pensons, ça pensait à FTL aussi. Là.
Ouais, excellent jeu, FTL. André-Philippe.
Oui, bon, je n'aimerais pas Céleste parce que vous avez compris que je l'aimais un peu.
Ça avait été assez vendu.
Ouais, c'est ça, c'est mon jeu de l'année, mais bon, je ne sais pas ce qui va sortir pour le reste de l'année. Bon, je pense que je vais mentionner Echo. qui est peut-être pas le meilleur jeu, mais je trouve vraiment le principe génial. Ça me donne un peu l'impression que comme si on était dans Star Trek, on se battait contre des Borg. J'explique un peu la mécanique de jeu. Tu te ramasses dans une sorte de place extraterrestre que tu sais pas trop c'est quoi, dans un immense temple, un peu genre victorien avec des escaliers partout, super beau avec des colonnes. Et il y a des panneaux d'électricité, l'électricité revient, et à chaque fois, tu te rends compte qu'il y a des clones qui te ressemblent de plus en plus. Et dans le fond, à chaque fois que l'électricité disparaît, durant le temps où il y avait de la lumière, les clones apprennent ce que tu viens de faire. Donc si tu te mets à courir, eux aussi se mettent à courir. Si tu te mets à tirer de ton gun, t'as 8 personnes qui se mettent à tirer de ton gun. Si tu te mets à aller dans l'eau, ils peuvent aller dans l'eau. Donc faut que tu utilises à peu près rien pendant qu'il fait clair, puis tu fais les trucs pendant que c'est obscur, pendant qu'ils font leur régénération, mais c'est archi dur. Parce que t'as tendance à pouvoir utiliser ton gun pour leur tirer dessus, mais là tu traverses avec 8 personnes qui sont aussi bons que toi qui tirent avec des guns et tu meurs instantanément.
Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle
Echo.
C'est à chaud, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment une très très bonne idée de jeu.
C'est vraiment une bonne idée, ouais.
Et toi, Megan?
Moi, mon jeu, en fait, j'ai pas joué encore, mais ça serait Steamboat Billy que j'ai vraiment...
Oh, t'es tellement film! 2019, comme, par exemple.
Mais c'est ça, moi, je capote sur l'esthétique qui était à la Cuphead, mais j'haïs les jeux à la Cuphead parce que je suis pas bonne puis j'aime pas ça perdre. Fait qu'un RPG, je pense que c'est tout désigné pour moi puis j'ai vraiment hâte que ça sorte. Puis je suis vraiment déçue parce que j'ai pas eu le temps de donner à votre Kickstarter.
Ah non, ouais, pas de stress. Tu vas avoir une clé gratuite.
Ah, yes!
Ah, ben je l'ai même pas payé pour dire ça en passant. Que ce soit clair pour l'histoire, là.
Non, mais la clé lyrique. Gratuite, c'est...
Maudite affaire. C'est correct, on va passer ça, on va éditer ça out à la fin. Même.
Ben non, c'est correct. Je vais être contente, tout le monde va le savoir, puis là, ils vont m'en demander après.
Ouais, c'est ça, tu peux donner
de clé. Ben, merci beaucoup, Christopher, Julie, Liane, Margot, André-Philippe, merci aux auditeurs et auditrices qui étaient avec nous aujourd'hui et merci pour l'émission, c'était vraiment excellent, je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.
À la prochaine!
Bye bye!